Radio Okapi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
Le chef de l'État s'est dit choqué par le manque d'infrastructures criant dans toutes les provinces de manière générale, qui contraste avec la capitale Kinshasa. Il a dit hier à Lodja dans la province du Sankourou. De ce fait, Félix-Antoine Tshisekedi a insisté sur le programme bientôt de développement de 145 territoires pour impulser le développement à partir de la base. La rentrée académique 2021-2022, c'était hier. À l'occasion, le ministre d'Enseignement supérieur et universitaire a appelé toutes les catégories professionnelles de son ministère au dialogue pour mener des discussions globales et trouver des solutions pour tous les intervenants dans les secteurs. Enfin, notre invité dans cette édition du journal, c'est Adrien Mwenyemali, responsable de l'ONG Litras, Ligue pour la transparence dans le secteur extractif. Il s'exprime sur le secteur minier en RDC pour que les fonds miniers puissent bénéficier à la jeunesse congolaise. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Le président de la République est arrivé hier, mercredi à Lodja, dans la province du Sankourou, accompagné de la première dame. Félix-Antoine Tshisekedi s'est adressé directement à la population à travers un meeting au stade de Lumumba de Lodja. Il s'est dit choqué par le manque d'infrastructures criant dans toutes les provinces de manière générale qui contraste avec la capitale Kinshasa. Il a en outre insisté sur le programme de développement des 145 territoires pour impulser le développement à partir de la base. Il a aussi appelé à l'unité des filles et fils du Sankourou. On écoute le président de la République.
La première chose qui m'inquiète est l'état des infrastructures. En voyant les routes, les maisons, les hôpitaux et les écoles, je constate que cette province est très en retard. Ça fait mal de voir un pays aussi riche et convoité que le Congo, mais nous-mêmes avons des difficultés pour le développer. Je suis très choqué par le contraste observé entre la capitale Kinshasa et l'intérieur du pays. Notre pays devrait être un pays dont les citoyens ne devraient pas vivre dans la souffrance. Voilà pourquoi je suis venu vous annoncer que nous développons un programme qui sera lancé cette année, appelé Programme de développement à la base. Grâce à lui, le développement commencera à partir de nos différents territoires.
C'est-à-dire qu'on développe à partir de territoires, Nabiso.
Par ailleurs, le président de la République a annoncé qu'il va procéder ce jeudi à l'installation des autorités politico-administratives de Lumumbaville. Et puis, quelques habitants de la ville de Lodja se sont aussi adressés directement au président de la République en lui posant leurs problèmes. On écoute notamment ces deux dames, l'une épouse d'un militaire FARDC et l'autre qui est la présidente des femmes des policiers de Lodja.
Nous souffrons, papa, même pour avoir un habit à porter. Nous n'avons pas d'argent pour faire le commerce. Nous recevons un maigre salaire et c'est dans ce même salaire que nous payons les études des enfants, les soins médicaux et les loyers. Développe cette province, papa. Pardonne nos députés. Nous souhaitons qu'ils soient unis. Je suis la femme d'un militaire FARDC de Lodja au Sankourou. Moi, je suis la présidente des épouses des policiers. Papa, nous souffrons. La première chose, nos enfants meurent faute de possibilités. Nos maris sont payés 160 000 francs. Moi, j'ai 10 enfants qui sont devenus des voleurs puisque je n'ai pas la possibilité de les envoyer à l'école. Avec 160 000 francs, comment allons-nous envoyer nos enfants à l'école? Nous sommes des locataires, nous souffrons et nos maris ne sont pas présentables. Ils manquent de bonnes tenues, ils n'ont pas de grades. Quand nos maris vont au travail et arrêtent une personne, les gens crient à la tracasserie. Nos enfants ont faim. 160 000 francs, ça ne suffit même pas pour une semaine.
Ces extraits sonores ont été proposés par Alain Irung. Alors, le président de la République n'est pas en campagne électorale dans le Grand Kassai. Cette déclaration est de Michel Moulumba, l'assistant personnel du président de la République, dans une interview exclusive accordée hier mercredi à Radio Okapi via les réseaux sociaux WhatsApp. En effet, le président de la République est en tournée depuis vendredi 24 décembre dernier, vous le savez, dans le Grand Kassai, où il a visité le Kassai oriental, le Kassai central, le Kassai, la Lomami et aujourd'hui le Sankourou. Dans ses provinces, province. Le chef de l'État a communiqué directement avec la population qui lui a parlé de ses problèmes. Après avoir écouté toute la doléance des habitants de ces trois provinces, Félix-Antoine Tshisekedi a promis de résoudre, dans la mesure du possible, les problèmes qui lui ont été exposés. Alain Hirung retrace les grandes lignes de cette interview avec l'assistant personnel du chef de l'État. Suivez.
Selon Michel Moulumba, c'était une mission normale d'itinérance au cours de laquelle le chef de l'État a palpé du doigt la réalité dans ces quatre provinces du centre de la RDC, tant sur le plan économique que des infrastructures, en passant par le social et l'énergie, affirme-t-il. Il a indiqué que sans intermédiaire, il a parlé aux populations de ces provinces, relevant leurs préoccupations des plus urgentes aux plus légitimes. Certains opposants, selon lui notamment de la plateforme Lamouka, pensent que cette tournée est une sorte de campagne électorale, accusant le président de violer le principe d'équité politique alors que la période de campagne n'est pas encore lancée. À ce sujet, Michel Moulumba répond que le président Tshisekedi n'est pas en campagne électorale pour le simple fait que le délai constitutionnel d'organisation des élections n'est pas encore atteint. Le chef de l'État est le premier des agents territoriaux que compte la RDC et l'itinérance est une mission lui assignée, explique Michel Moulumba, qui ajoute que la tournée dans l'espace Grand Kassai est tout simplement une mission d'itinérance devant permettre au chef de l'État de calibrer son programme de développement des 145 territoires avec des solutions adaptées à chacun d'eux.
Pendant ce temps sur le terrain au sud Kivu, des manifestations publiques ont eu lieu hier mercredi devant le parking de Rugenge dans la partie nord de la ville d'Uvira. Près d'une centaine de femmes et des enfants identifiés comme des familles des militaires de FRDC sont descendus dans les rues pour barricader la route nationale numéro 5. Ils réclament les dépouilles mortelles de leurs maris et pères récemment tombés sur le champ de bataille dans le moyen et haut plateau d'Uvira et Fizi. Fiston Goma, les barricades posées le matin de ce mercredi ont été enlevées en début d'après-midi après l'intervention de la police et des FRDC.
Les commissaires de la police district d'Ouvira, le colonel Omanampo et Simon, reconnaissent avoir obtenu par négociation la reprise du trafic routier sur la RN5 où plusieurs dizaines de véhicules étaient bloqués. Depuis tôt le matin, les épouses des militaires et leurs enfants avaient placé des troncs d'arbres et brûlé des pneus sur la route à Rugenge. Par diversion, un autre groupe de femmes s'est rendu devant le bureau de la MONUSCO Kavivira. Des femmes des militaires aidées par des habitants du quartier ont attaqué par deux jets de pierre un convoi de la MONUSCO qui voulait se rendre vers Rutemba au nord de la ville. La police nationale signale quelques blessures pendant les débordements, mais aucun incident majeur sur les manifestantes qui ont rencontré les commandants de la zone opérationnelle Sokolade au sud du sud Kivu. En plus des dépouilles mortelles de leurs maris et pères tombés pendant les affrontements et qui pourrissent sans être enterrés dans la brousse, ces épouses des militaires FRDC disent ne recevoir aucun solde de leurs maris après le décès. Leur porte-parole a demandé au commandant des FRDC, le général Joseph Banza Kabulo, d'éviter de faire la discrimination dans les secours des militaires blessés sur la ligne d'attaque. Le commandant des FRDC de son côté a promis de relayer toutes ses revendications auprès de la hiérarchie militaire à Kinshasa. D'Uvira, Fiston Goma, Mayaba, la radio Okapi.
Autre nouvelle. Il faut éviter en tout état de cause de préjudicier les étudiants dont les parents consentent d'importants sacrifices pour les faire étudier. Cet appel est du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, lancé hier mercredi 5 janvier ici à Kinshasa, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture officielle en République démocratique du Congo de l'année académique 2021-2022. Mouindo Nzangi a ce propos appelé toutes les catégories professionnelles de son ministère au dialogue pour mener des discussions globales et trouver des solutions, pas seulement pour les professeurs, mais aussi pour le personnel scientifique, administratif, technique et ouvrier. Reportage de Honoré Missenga Kalala et de Priscilla Badjoko.
27 000 agents non payés parmi les personnels de l'ESU, 100 milliards de francs congolais prévus par le Parlement dans les budgets 2022 sur le 300 milliards proposés. Le ministre Mouindo Nzangi s'est dit conscient de difficultés à résoudre tout le problème posé dans son secteur. Mais pour lui, la solution passe une fois encore par le dialogue.
Je voudrais affirmer ma pleine disponibilité pour que nous dégagions des axes prioritaires, des actions et des démarches à mener.
Les conditions sociales et de travail du personnel de l'ESU l'ESU préoccupe au plus haut point, a encore rassuré le ministre Mohindo, promettant la relance des concertations entre le gouvernement et les banques syndicales.
Si cette discussion s'ouvre et que ça avance, je pense que nous devons reprendre les activités dans nos universités.
En entendant dans le cercle des étudiants l'air et à l'inquiétude.
Disons, moi je suis nouvelle, j'ai quitté l'école humanitaire pour venir ici et dire qu'il y a grève et tout, ça nous pénalise, ça nous dérange un peu. Ces grèves-là, ça ne va pas du tout nous aider.
Concernant les étudiants de médecine des institutions fermées, le ministre de l'ESU a rassuré qu'ils ne sont pas oubliés. Très bientôt, un test sera organisé pour les orienter dans d'autres établissements, a-t-il promis.
Notez que cette rentrée académique s'est déroulée en dents de scie à travers le pays. Dans certaines provinces, elle a bel et bien eu lieu, tandis que dans d'autres, les professeurs ont annoncé les débuts de la grève. Et puis, l'Association des cadres scientifiques de l'Université pédagogique nationale, ACS-UPN, reprend son mouvement de grève consécutive à ses revendications d'amélioration des conditions sociales. Elle a tenu hier mercredi son assemblée générale extraordinaire, au cours de laquelle elle a fustigé l'indifférence du gouvernement face à ses revendications. Selon son président, l'ACS-UPN reste ouverte à toute négociation tendant à trouver des solutions à son cahier de charges. Le chef de travaux, Joseph Loukadi, est au micro de Jeff Ngoy.
Après débat et considération, l'ACS-UPN constate avec tristesse l'abandon et l'indifférence totale dont le personnel scientifique fait l'objet de la part du gouvernement congolais et décide ce qui suit. 1. La reprise du mouvement de grève a daté de ce jour, 5 janvier 2022, pour une durée de 22 jours renouvelable après évaluation. 2. Le renouvellement des revendications phares qui s'articulent autour de la réduction des écarts entre les scientifiques et le professeur. Le recensement des nouvelles unités, la mécanisation salaire de base et la prime institutionnelle, ainsi que la correction des grades. La création d'une bourse locale de recherche en faveur du personnel scientifique du secteur public. L'application sans délai du nouveau barème de primes et bases allouées aux cadres et agents des services centraux de l'ESU à l'ensemble du personnel scientifique de l'ESU en respectant l'équivalence des grades.
Organisation des Jeux de la Francophonie à Kinshasa au mois d'août prochain, le rapporteur adjoint de la commission d'organisation de ces Jeux se veut rassurant, malgré les difficultés et le retard dans l'exécution des travaux. Pour Barthélémy Okito, les Jeux de la Francophonie seront organisés à Kinshasa du 19 au 28 août 2022. Il confirme que les Jeux ne seront ni délocalisés ni reportés. Il est dit au micro d'Enoch Matundo.
On a décidé tous les villages de jeux avec tous les bureaux, accréditation, services généraux, etc., seront construits en préfabriqué. Déjà, on est en train de faire ce travail à l'extérieur du pays. Donc, disons qu'au plus tard juin ou à la rigueur fin 15 juillet, on aura déjà le village de jeux au stade Atarafaya. Ça, c'est au niveau de préfabriqué. En ce qui concerne les gymnases, le hall qui vont servir le judo et le tennis de table, il y a eu un avenant au niveau des contrats. Donc, les entrepreneurs sont allés signer des nouveaux contrats. Au niveau de finances, hein, il y a entre 50 et 52 millions qui vont être débloqués rapidement. Tout le monde, l'enjeu c'est le 15 juillet, tout devra être en place pour l'organisation de ce jeu.
Notez que le haut représentant du chef de l'État au 9e jeu de la francophonie, Didier Kiyoyo, a été démis de ses fonctions. C'est ce qu'a annoncé à la presse le directeur du comité national de ces jeux, Isidore Ngwanja Ngembo. Selon lui, les travaux de construction des infrastructures qui devront accueillir ces jeux de la francophonie de Kinshasa ont pris du retard. Autre nouvelle, 5 janvier 1993, 5 janvier 2022, il y a 29 ans, jour pour jour, qu'était assassiné Enoch Nyamwisi Mouvingi dans la ville de Butembo au Nord Kivu. À cette occasion, des membres de sa famille et de son parti politique se sont recueillis au mausolée érigé en sa mémoire au quartier Boikene à Beni. Plusieurs personnes ont salué la mémoire et l'héritage de cet homme politique, frère aîné d'Antipas Mboussa Nyamwisi. Suivez ce reportage de Guylaine Kassassia.
Initiateur du Parti politique démocratie chrétienne fédéraliste Nyamwisi DCFN en 1991, Enoch Nyamwisi reste une importante figure politique du Nord Kivu et de l'Est de la RDC, fait savoir Jean de Dieu Paluku Kisaka, ancien maire de Beni. Pour lui, tout au long de sa vie politique, Enoch Nyamwisi a su convaincre deux personnes indifférentes au débat politique à son cachet politique.
Nyamwisi Mouvinga Enoch a été de ceux qui ont fait que, comme on dit, des chocs des idées jaillissent la lumière et lui, il a trouvé que les idées qui concernent la marche de l'État doivent être débattues. C'est ce qui a fallu qu'il soit surnommé un homme de débat. Le peuple de l'Est du pays reconnaît à Nyamwisi Mouvinga Enoch l'homme qui s'est soucié de lui, au point même de se sacrifier jusqu'à perdre sa vie pour ce même peuple. La plupart d'acteurs politiques de l'Est du pays, à 80%, ils sont de la racine de Enoch Nyamwisi.
Enoch Nyamwisi a été tué par Bala Boutembo le 5 janvier 1993, alors qu'il s'est rendu dans cette ville pour s'informer de la situation sécuritaire qui commençait à se dégrader. Les partisans de ce parti estiment qu'il faut maintenir allumée la flamme de ce combat en continuant de défendre les intérêts du peuple. Beni, Gulen Kassassia, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Sénégal, le bureau de l'Assemblée nationale a déclaré mercredi irrécevable la proposition de loi demandant la criminalisation de l'homosexualité. En effet, le code pénal prévoit actuellement jusqu'à 5 ans de prison pour les actes qualifiés de contre-nature avec un individu de son sexe. Mais le texte déposé en décembre par un groupe de députés de l'opposition visait à durcir les sanctions existantes. Il visait à aller plus loin jusqu'à 10 ans de prison pour les individus reconnus coupables de lesbianisme, homosexualité, bisexualité, transsexualité, intersexualité, zoophilie, nécrophilie et autres pratiques assimilés.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal est Adrien Mouenye-Mali, responsable de l'ONG Litras, Ligue pour la transparence dans les secteurs extractifs. Il s'exprime sur le secteur minier en RDC pour que les fonds miniers puissent bénéficier à la jeunesse congolaise. Adrien Mouenye-Mali s'entretient ici avec Philbert Balolagué.
Maître Adrien Mouenye-Mali, bonjour.
Bonjour.
Quel état faites-vous de l'exploitation minière en République démocratique du Congo actuellement?
Actuellement, le secteur minier est beaucoup plus abondé par un désordre qui est difficile à décrire, notamment au niveau de l'exploitation artisanale. Nous sommes en train de voir, il y a des entreprises étrangères qui commencent à entrer dans le domaine d'exploitation artisanale, pourtant réservé aux citoyens congolais, conformément au code minier. Et de l'autre côté, pour les entreprises qui sont en train d'exploiter, il y a des violations du code minier, notamment dans beaucoup de domaines comme le secteur environnemental ainsi que la responsabilité sociétale.
Et vous, en tant que Litras, qu'est-ce que vous faites pour lutter contre cela?
Nous avons constaté depuis l'octroi des permis d'exploitation des recherches au niveau de l'exploitation des paiements des taxes ainsi que de la répartition, il y a un grand problème qui est traduit par le paradoxe. Et nous, en tant que jeunes, nous nous sommes mis debout depuis 2019 pour dénoncer cette situation et obliger à ce que les responsables de notre pays qui signent les contrats avec les investisseurs puissent signer des contrats qui ne soient pas léonins et au détriment de la population. Donc nous poussons pour qu'il y ait la bonne gouvernance ainsi que la transparence dans le processus de la gestion du secteur extractif.
Le jeune bénéficie-t-il de cette exploitation ou des résultats de cette exploitation?
Alors aujourd'hui, les jeunes sont plus nombreux au niveau des carrières minières et on voit les jeunes sont beaucoup plus victimes ou exploités, raison pour laquelle lors de la révision du code minier 2018, il y a eu une innovation très importante que nous considérons une aubaine aux jeunes, c'est le fonds minier pour les générations futures qui est les 10% de la redevance minière. La gestion de ce fonds, nous ne cessons de dénoncer. Il faut que ce fonds puisse être effectivement bénéfice aux générations futures. Parce que par génération future, ce sont les jeunes et les enfants d'aujourd'hui qui vont préparer ceux qui vont venir demain. Malheureusement, le pouvoir public ne sait pas capitaliser cette innovation qui est d'ailleurs en train d'être mise en place. Dernièrement, le président de la République a nommé les mandataires du fonds minier pour les générations futures sur base du critère politique et aucun jeune à l'intérieur. Donc le fonds mine, comme d'autres domaines du secteur minier, ne bénéficie pas aux jeunes et aux enfants. Et nous, la Listras, nous continuons à marteler pour que les autorités actuelles puissent mettre un accent particulier sur le développement des jeunes.
On le sait bien que les mines sont une source de conflits en République démocratique du Congo. Vous, en tant que Listras, qu'est-ce que vous faites pour que cela ne puisse plus arriver ou affecter les jeunes?
D'abord, nous sensibilisons les dirigeants parce que le mal commence à la tête. Lorsqu'un jeune se trouve dans une zone minière, il voit les entreprises venir avec des bennes. Les gens sont en train d'exploiter son sol et son sous-sol et lui ne se retrouve pas. Il devient frustré et peut-être qu'il recourt, c'est pas que nous validons cela, mais il recourt à un moyen qu'il semble être normal. Nous savons très bien que ces conflits-là sont alimentés par les forces aussi extérieures qui trouvent une jeunesse paupérisée et une jeunesse abandonnée à son triste sort et c'est très facile de les manipuler. Voilà pourquoi nous demandons au niveau des autorités de pouvoir élaborer une politique participative, insérer les jeunes dans tous les projets de développement au niveau local et aussi nous sensibilisons les jeunes à pouvoir ne pas donner la voie libre à ces exactions qui ne profitent même pas à la population.
Mais nous avons l'impression que la Listras travaille jusqu'à Kinshasa alors que nous avons 25 autres provinces.
Non, la Listras aujourd'hui est implantée dans 8 provinces. Comme je vous ai dit, c'est une ONG qui a été créée le 5 janvier 2019, donc nous n'avons que 3 ans et dans 3 ans nous sommes dans 3 provinces et il y a un accent particulier au niveau du nord au Sud Kivu, nous sommes en Ituri, nous sommes à la Tchopo, nous sommes dans le Grand Katanga et même au Kasai. C'est-à-dire ce sont des zones où il y a l'exploitation minière et avec des conflits.
Quelles sont les perspectives d'avenir pour qu'il y ait canalisation des recettes qui viennent des mines en République démocratique du Congo?
C'est vrai que le secteur est vaste et nous, pour être plus précis, nous avons ciblé le fonds minier pour les générations futures. Nous demandons au Premier ministre de pouvoir convoquer une table ronde à laquelle seront associés les jeunes pour essayer de revisiter le décret qui porte sur le fonds mine et mettre dans les objectifs les objectifs qui apportent un changement au niveau de la jeunesse, notamment le financement de bourses d'études, le financement des projets des jeunes, parce que le fonds mine peut être constitué comme une caisse ou un fonds qui peuvent alimenter le développement des jeunes.
Quel est votre message aux autorités?
Nous-mêmes, en tant qu'une organisation, nous collaborons directement avec les différentes autorités. Ce que nous pouvons demander aux différents responsables, c'est d'élaborer ou mettre un accent sur une politique minière qui doit intégrer le développement des jeunes. Ce n'est pas seulement au bénéfice de l'humanité, mais il faut que les Congolais puissent aussi bénéficier. Et il est plus que temps de pouvoir investir dans la jeunesse pour que ces jeunes d'aujourd'hui puissent accompagner cette transition énergétique et que le Congo puisse bénéficier.
Maître Adrien Moignemali, responsable de la Listras, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.